R22 Tout Monde, antenne, la galerie de Noisy-le-Sec.
Bonjour, je suis très content d'être ici, je suis ravi d'être ici. Donc je remercie Émilie Renard et la galerie de m'avoir invité à intervenir donc dans le cadre de ce cycle, ce parcours de réflexion autour des formes de l'affect. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est une question qui m'apparaît assez centrale, qui est celle du racisme et qui est celle de la dimension affective du racisme. En d'autres termes, la question de la façon dont le racisme nous affecte. Pour essayer d'aborder cette question, alors c'est vraiment un cheminement, hein, c'est vraiment une circulation théorique, hein, une pensée en cours. Pour aborder cette question, je vais d'abord revenir sur les usages du concept d'affect, en essayant du coup de répondre aussi à ce qui était en partie la commande que m'a faite Émilie. Et puis dans un deuxième temps, donc je vais revenir à ce que permet le concept d'affect, à mon sens, lorsqu'il s'agit de penser le racisme. Pour comprendre le concept d'affect, je pense qu'il faut revenir au fait qu'il se situe nécessairement en tension avec le concept d'émotion. C'est le cas en tout cas dans un certain nombre d'usages de ces deux concepts, à la fois dans l'histoire de la sociologie et dans l'histoire de la philosophie sociale. La tension entre affect et émotion a d'ailleurs été récemment particulièrement pensée, et même de façon systématique, au sein d'un champ anglo-saxon qui s'appelle le champ des Affect Studies, hein, donc qui s'est consacré uniquement à cet enjeu conceptuel pour repenser la société et les sciences sociales. La tension entre ces deux concepts réside dans le fait que l'affect, d'un côté, est défini comme une force qui circulerait dans le social et qui redéfinirait le social dans un processus dynamique, ou selon un processus dynamique. L'émotion, de l'autre côté, ne serait pas une force sociale, mais serait plutôt, elle se situerait à un niveau individuel, et elle tendrait à clore le corps sur lui-même, à définir les frontières de ce corps, et à produire un fort sentiment d'individuation, hein, donc le sentiment d'une expérience singulière vécue en propre. Cette distinction entre affect et émotion ne signifie pas toutefois que l'un se situerait pleinement du côté du social et l'autre pleinement du côté du psychique. L'affect comme l'émotion sont évidemment tous deux marqués par des dynamiques proprement sociales et impliquent tous deux une forte relationnalité. La question de l'articulation donc entre l'affect et l'émotion, hein, entre ce basculement, entre une expérience dont on a le sentiment qu'elle est vécue en propre et sa transformation plus large en tant que force sociale, est une question qui a ceci d'intéressant, et c'est comme ça en tout cas qu'elle a été investie en sociologie, qu'elle permet de repenser la subjectivation, c'est-à-dire qu'elle permet de repenser la construction du sujet, la façon dont le sujet advient. Cette question est notamment apparue en fait dès les prémices de la sociologie chez Émile Durkheim, et elle apparaît chez Durkheim en particulier dans les relectures qu'il effectue des écrits de Jean-Jacques Rousseau sur la question des passions. Donc c'est au travers de ce terme de passion que Durkheim va aborder cette question. Le projet de Durkheim consiste à produire une théorie sociogénétique, c'est-à-dire une théorie permettant de comprendre la constitution du social. Et c'est dans le cadre de cette théorie sociogénétique qu'il va s'intéresser aux passions en tant que forces collectives qui tout à la fois contraignent et constituent les individus en tant qu'individus. Hein, donc on est là dans le projet durkheimien typique, hein, c'est-à-dire que Durkheim tente de rompre avec l'individualisme, avec l'idée que l'individu précède le social, et il propose au contraire une perspective holiste selon laquelle le tout social produit et détermine l'individu. Donc, et c'est intéressant qu'en fait ce soit ce concept de passion, que nous on appellera affect, qui est devenu affect par la suite, qui joue un rôle notamment dans cette théorie. Durkheim définit les affects comme, donc je le cite, des forces aussi réelles que les forces cosmiques, bien qu'elles soient d'une autre nature. Un ensemble d'énergie qui nous détermine à agir du dehors, ainsi que le font les énergies physico-chimiques dont nous subissons l'action. Les affects chez Durkheim, ou les passions, se trouvent en tension avec ce qu'il n'appelle pas émotion, mais ce qu'il appelle les sentiments privés. Et ces sentiments privés, bien qu'ils soient nourris de l'intensité du champ social, émanent des esprits individuels. Toutefois, leur expression, leur convergence, leur circulation dans le champ social ouvrent à la constitution de forces nouvelles, donc les affects, qui en retour produiront de nouvelles contraintes sur les individus. Pour Durkheim, donc dans cette conception où on a une circulation entre les affects et les émotions, ou autrement dit entre les passions et les sentiments, pour Durkheim, la société est un surplus, c'est le terme qu'il emploie, quelque chose qui se surajoute au niveau individuel sous l'effet d'une combinaison qui prend la forme d'une force. Alors cette opération, c'est précisément une opération de transformation des affects en émotions ou des sentiments privés en passions. Et c'est une opération qu'il nomme indifféremment fusion, communion ou encore synthèse chimique. Et il y a un extrait qui est tout à fait intéressant d'un texte de 98 dans lequel Durkheim nous dit « Les sentiments privés ne deviennent sociaux qu'en se combinant sous l'action des forces que développe l'association. Par suite de ces combinaisons et des altérations mutuelles qui en résultent, ils deviennent autre chose. Une synthèse chimique se produit, qui concentre, unifie les éléments synthétisés et par cela même les transforme. Puisque cette synthèse est l'œuvre du tout, c'est le tout qu'elle a pour théâtre. La résultante qui s'en dégage déborde donc chaque esprit individuel comme le tout déborde la partie. L'affect durkheimien est donc ce qui déborde, ce qui échappe et s'échappe, ce qui, d'une certaine manière, se répand. La pensée de Durkheim, je trouve, a ceci d'intéressant et en même temps de problématique, que c'est une pensée complètement circulaire. Le circuit qu'il propose est le suivant. Les sentiments privés débordent dans le social et l'alimentent. Le social transforme ses sentiments en passions et ces passions, en retour, affectent les individus qui, du coup, produisent d'autres formes de sentiments, d'autres types de sentiments. On est pris, en quelque sorte, dans ce circuit théorique, dans une sorte de cycle infini des passions qui, finalement, ne permet pas de résoudre la tension entre holisme et individualisme, hein, ne permet pas de savoir qui précède l'autre, l'émotion ou l'affect, le sentiment privé ou la passion. Peut-être que cette incapacité de ce modèle théorique de Durkheim à répondre à la question provient de son appui sur des métaphores trompeuses, des métaphores qui piègent la pensée, même si elles espèrent pouvoir la libérer. Par exemple, la métaphore du corps social, hein, l'idée que le social est un corps organique. C'est une idée qu'on retrouve évidemment dans toute la philosophie sociale sur laquelle s'appuie Durkheim, et qu'on retrouve là exprimée de manière extrêmement forte, puisqu'il y a cette idée finalement, donc si je retraduis, y compris en utilisant les mots de Durkheim, son circuit théorique, cette idée d'un corps clos sur lui-même, au sein desquels finalement les sentiments circuleraient dans les veines, pour ensuite être transformé sous l'effet d'une synthèse chimique dans l'appareil digestif, et cette synthèse chimique produisant en retour de l'énergie, donc des affects, des forces. Évidemment, le projet durkheimien, il est extrêmement riche, et il est, on voit que les tensions qu'on trouve déjà dans la conception des passions chez Durkheim, c'est une tension qui va traverser toute l'histoire de la sociologie et de la philosophie sociale. Et par exemple, là je pense au dernier ouvrage de Frédéric Lordon, qui s'appelle « Pour un structuralisme des passions », où l'ordonne revient aussi sur ce type de tension qu'a complètement traversé l'histoire des sciences sociales. Mais au-delà de la richesse de ce projet durkheimien, peut-être est-il temps de changer de métaphore, peut-être est-il temps d'en finir, de rompre avec cette métaphore du social comme un corps. Donc, sur cette idée de changer de métaphore, sur cette importance des métaphores dans l'écriture scientifique, on a là notamment l'éclairage de Donna Haraway, que citait Émilie, qui a beaucoup écrit sur cette question, et bien qui nous dit que les métaphores dans l'écriture scientifique sont à la fois piégeuses et précieuses, en ce sens qu'elles ont le pouvoir de modeler les objets, de modeler les concepts qui nous servent à les appréhender, et que donc en cela il faut les manier avec beaucoup de précautions. Et je crois là que la métaphore corporelle modèle le social en l'enfermant dans l'idée d'une structure organique qui lui donnerait sa cohésion. Alors cette métaphore corporelle, elle a néanmoins été dépassée dans un certain nombre de champs, même si ce n'est pas le cas pour ce qui constitue aujourd'hui le cœur de la sociologie par ailleurs. Et elle a notamment été dépassée au sein du champ des affect studies par un théoricien qui s'appelle Brian Massumi et qui a retravaillé la question de l'affect à partir d'une perspective post-structuraliste. L'appropriation post-structuraliste qui a été faite du concept d'affect repose en premier lieu sur la critique des conceptions du sujet comme unifiées. Donc la critique post-structuraliste classique qui à la fois tend à montrer qui tend à montrer que le sujet ne s'appartient pas en propre, que le sujet se déborde lui-même et que le sujet n'est absolument pas une unité close sur elle-même. Et puis par rebond, l'appropriation post-structuraliste du concept d'affect a aussi mis à mal cette idée du social comme un corps cohésif. Sur, évidemment, la critique du sujet que suit Brian Massumi et que suivent les affect studies tels que je les présente ici, on retrouve l'idée, qui est l'idée centrale de Foucault, du sujet comme étant le produit et le relais du pouvoir, voire même du sujet comme étant un opérateur d'intensification du pouvoir. C'est ce que Foucault appelle notamment la dimension positive du pouvoir, c'est-à-dire le fait que le pouvoir informe, c'est-à-dire qu'il donne forme, littéralement, au sujet. C'est ce point-là précisément que Massumi va s'accrocher pour définir l'affect comme une tension qui traverse le sujet et qui prend la forme, selon lui, donc c'est sa définition très précise de ce qu'est un affect, qui prend la forme d'une réaction corporelle qui se situe à un niveau préconscient, à un niveau dans une sorte d'au-delà ou avant la conscience. Massumi parle ainsi des affects comme d'une mémoire sans contenu. C'est le terme qu'il emploie et j'y reviendrai. D'une tension viscérale qui nous précède et qui nous traverse. Alors pour autant, parce qu'on pourrait avoir l'idée à première vue quand on entend préconscient, surtout en sociologie ça peut coincer, pour autant Massumi ne situe absolument pas les affects en dehors du social. Au contraire même, et je pense que là il est peut-être même plus holiste que Durkheim, puisque Massumi considère que les affects sont des forces qui participent intégralement du processus d'individuation. Ce sont des forces qui constituent intégralement l'individu. L'idée donc centrale de Massumi, pour la résumer, est la suivante. Les forces sociales trouvent en nous, en notre subjectivité, en notre corps, le véhicule de leur intensification. Et ce que décrit ainsi Massumi en d'autres termes, c'est l'expression d'une historicité sociale inscrite dans la chair. Comme si l'histoire sociale informait intégralement le corps que je suis et le sujet que je suis. Alors je crois que cette définition-là des affects peut être un bon point de départ pour penser la question de la structuration affective du racisme. Si on s'inscrit dans le sillage de Massoumi, on peut par exemple demander dans quelle mesure peut-on considérer que le racisme trouve dans le corps et dans le sujet des points de relais qui intensifient le pouvoir qu'il exerce. En d'autres termes, en quoi pourrait-on dire que l'histoire du racisme se trouve inscrite dans nos chairs, incarnée dans nos expériences de vie, transportée et augmentée dans nos réactions corporelles et à un niveau qui précède la conscience. Donc on est là dans un projet du coup théorique, et un projet bien spécifique et qui s'inscrit relativement dans le cadre notamment du projet foucauldien. Alors pour répondre à cette question, en se situant dans ce cadre théorique-là, je pense qu'il y a un déplacement, un autre type de déplacement qui est nécessaire, qui consiste à concevoir le racisme comme systémique, c'est-à-dire comme étant intégré à la structure sociale même. Pour appréhender le racisme comme systémique, pour considérer qu'il est intégré à la structure sociale même, il suffit, à mon sens, de mettre l'accent sur l'histoire de l'intrication du capitalisme et de l'expansion coloniale. De mettre l'accent sur le racialisme comme logique interne du projet capitaliste. Alors c'est ce qu'ont fait de nombreux auteurs, je citerai simplement les trois plus importants, Annibal Quijano, Walter Mignolo ou encore Achille Mbembe. Je reviendrai un tout petit peu sur Achille Mbembe. Faire suivre ce chemin, donc considérer le racisme comme systémique, met à distance une autre conception du racisme. Elle rompt avec une conception qui est finalement la conception la plus largement en circulation dans l'espace social, qui est celle selon laquelle le racisme ne serait finalement qu'une déviance sociale marginale ou une conduite individuelle qui serait moralement condamnable. Le racisme systémique met cette définition à distance en considérant plutôt que le racisme relève des structures sociales économiques elles-mêmes et que son destin est ainsi profondément lié au mouvement même du capital. Donc c'est d'ailleurs ce que souligne avec une très grande acuité, je trouve, le dernier ouvrage d'Achille Mbembe. Donc c'est un thème qui creuse depuis très longtemps, mais qui là prend un nouveau tournant dans son dernier ouvrage, qui s'appelle « Critique de la raison nègre », et dans lequel Achille Mbembe démontre ce qui, selon lui, est en train de se produire, qui serait un processus d'extension du domaine de la racialisation dans la logique néolibérale, c'est-à-dire en l'occurrence cette idée que le modèle de l'esclavage, qui est un modèle racialiste, est en train de trouver de nouvelles formes, y compris au sein même du salariat et dans la logique néolibérale. Alors si j'en viens à un niveau cette fois plus sociologique, pour voir, une fois qu'on a fait ce tournant conceptuel, qu'est-ce que l'idée d'un racisme systémique permet de penser? On peut notamment l'appréhender, comme l'ont fait donc deux sociologues, Véronique Derrida et François Wurch, comme un point de rencontre entre des formes interactionnelles, donc c'est-à-dire par exemple c'est là que se situeraient par exemple, la question de l'injure raciale, la question de l'agression, la question de confrontation à un niveau inter-individuel. Donc d'un côté, des formes interactionnelles, et de l'autre côté, des formes structurelles de racisme. Les premières sont constituées de micro-inéquités répétitives et certes corrosives. Les secondes, par les règles et procédures de traitement. L'une et l'autre forme étant incorporées aux règles éthiques et socioculturelles du fonctionnement ordinaire des institutions, des organisations et plus globalement de la société tout entière. Donc sur le plan sociologique, le racisme systémique s'exprime dans le fonctionnement institutionnel, on le voit ici, mais aussi dans la production de la société, au travers du travail, et en particulier au travers d'une double division du travail, une division raciale du travail au sein des États, couplée à une division internationale du travail, segmentant Nord et Sud. Cette dimension systémique du racisme conduit à considérer, et c'est là un point tout à fait important, qu'il n'est pas d'espace social qui ne soit pas affecté par les lignes de force et par les lignes de partage qu'il trace. Sont donc concernés par cette question aussi bien le travail et l'économie que l'administration et l'État, l'espace public et la représentation, mais aussi les émotions et sentiments, les corps et la sexualité, les subjectivités et les identités. Toujours dans cette même voie, dans cette même idée, l'appréhension systémique du racisme porte à considérer qu'il étend son emprise sur l'ensemble des consciences individuelles, précisément en tant qu'il est indissociable de la structure capitaliste. Et il serait ainsi, donc pour reprendre là les termes de Durkheim, l'une de ces forces qui débordent les esprits et produisent des passions qui nous contraignent. Si on considère que le racisme systémique est le double indissociable du capitalisme, la question qu'on ne peut que se poser, notamment si on se situe dans une perspective critique, est celle de la façon dont le sujet s'en trouve affecté. Et je crois que sur ce plan, il est nécessaire d'en revenir aux réflexions de Fanon sur le sujet colonial, hein, pour tracer cette historicité-là du sujet. Et les travaux de France Fanon sur les effets subjectifs de la colonisation montrent en particulier que l'expérience coloniale a été une expérience du démembrement, c'est le terme qu'il emploie, de la dislocation, de la fragmentation du sujet. Et comme l'a souligné à juste titre la philosophe Elsa Dorlin, l'une des thèses particulièrement fortes de Fanon est celle selon laquelle la centralité de l'expérience coloniale dans la modernité est telle que désormais toute subjectivité unifiée serait impossible. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une fragmentation irrémédiable du sujet qui est le fruit de cette expérience coloniale. Cette expérience du démembrement aurait disloqué l'ensemble des sujets dans les colonies et post-colonies, dans les métropoles et post-métropoles. Et dans les ruines du colonialisme, eh bien, il ne resterait plus que des fragments de sujets. L'ensemble de ce questionnement, alors vous voyez, j'essaie de cheminer, je progresse, parfois on vient un pas en arrière, etc. Mais globalement, on essaie de cheminer. Et dans ce questionnement-là, je trouve, au travers de Fanon, on en revient à un mode de questionnement qui est finalement très foucauldien, qui consiste à demander, non pas ce que le racisme et l'expérience du colonialisme réprime. Il ne s'agit pas de demander ce que le racisme contient, ce qu'il enferme, ce qu'il empêche, mais plutôt ce que le racisme et l'expérience historique du colonialisme produisent, ce qu'ils constituent, ce qu'ils font, ce qu'ils informent, ce à quoi ils donnent forme. Et il s'agit donc de penser les effets du racisme sur les subjectivités et de poser non pas la question du racisme comme répression, on évacue l'hypothèse répressive, mais de poser la question du racisme comme pouvoir positif au sens de Foucault. Il s'agit donc de décrire les types de sujets que le racisme fait émerger à l'époque postcoloniale, et donc en relisant Fanon via Foucault, d'en proposer une lecture historique. Je le fais un peu à la hussarde, mais... Donc comment, après Fanon, l'engagement du processus de décolonisation, de quelle façon les fragments du sujet colonial se sont-ils réagencés? Alors il y a quelqu'un qui a essayé de répondre à cette question de façon tout à fait intéressante, qui est Sarah Ahmed, qui est une des figures vraiment importantes aujourd'hui dans le champ des affect studies et dans le champ de la théorie féministe, et même de la théorie queer d'ailleurs. Et pour répondre à cette question, Sarah Ahmed a proposé un modèle théorique qui, justement, repense à nouveau frais l'articulation entre affect et émotion. Et elle le fait en particulier au travers du concept d'économie affective. Ce que propose le modèle d'Ahmed dans sa définition des émotions, c'est l'idée que les émotions ne sont générées que dans et par l'interaction sociale. Hein, donc elle rompt complètement avec tout individualisme et toute idée selon laquelle les émotions émaneraient d'un sujet individuel. Hein, les émotions pour elle ne sont absolument pas intérieures et ne sont pas une émanation. Elles sont produites dans l'interaction entre deux forces. Et la circulation de ces émotions qui sont produites dans l'interaction génère, aménage ce qu'elle appelle des formes d'intensification de l'expérience et d'intensification du contact. Donc c'est cette intensification, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est le même terme qu'emploie Foucault, hein, ces formes d'intensification, c'est ce qu'on a appelé les affects. Le champ général, le cadre, l'espace au sein duquel donc, circulent ces émotions générées au travers du contact, est ce qu'elle appelle l'économie affective. Et c'est un champ au sein duquel se structurent des positions subjectives strictement étanches. Et c'est là où la théorie de Sarah Ahmed est particulièrement intéressante, c'est que... et là où finalement je trouve que paradoxalement elle arrive à accomplir le projet durkheimien, c'est qu'elle pense le contact social comme générateur d'émotions qui constitue les identités de chacune des deux entités, donc de chacun des deux individus. Ahmed écrit « C'est au travers des émotions que les surfaces et frontières sont constituées. Le je et le nous sont formés par le contact aux autres, voire ils prennent la forme même de ce contact. » Sarah Ahmed souligne par ailleurs combien les émotions opèrent comme des vecteurs qui non seulement produisent des surfaces corporelles et des frontières, mais qui orientent les corps les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est une image, une métaphore tout à fait importante dans son travail. Il y a cette idée que les lignes de force que sont les affects tracent des lignes de direction et des lignes de mouvement. Si on prend l'exemple du dégoût, donc qui est un affect fondamental, si on prend l'exemple du dégoût tel que le décrirait Sarah Ahmed, il y a dans l'expression du dégoût ce type de réaction physique marqué par un mouvement. Le dégoût passe par une posture qui à la fois oriente le corps et marque une distance face à l'objet de l'affectation. Les yeux se ferment pour ne pas voir, la bouche se tord pour ne pas goûter, et le corps se recule en arrière. Cette posture du dégoût cristallise à la fois l'identité du sujet et de son objet. Elle assigne à ces deux corps, dans l'interaction, une certaine orientation qui les distingue et qui les oppose. Alors c'est là, selon Sarah Ahmed, l'une des nombreuses dynamiques affectives du racisme, et en tout cas, une des dynamiques qui joue au niveau de ce que François Wourche et Véronique de Ruder appelaient les micro-inéquités, hein, donc, c'est-à-dire le racisme interactionnel, par opposition au racisme systémique. Pour revenir donc à la question qui me guide, hein, de la dimension positive du racisme et donc du type de sujet que fait émerger le racisme à l'époque postcoloniale, la recomposition du sujet à cette époque, son réassemblage sous la forme d'une identité cohérente et exclusive, passe, à mon sens, par l'oblitération de l'histoire coloniale. Un oubli fondamental de l'histoire coloniale, un oubli fondamental du racisme. Et on en revient, je crois, à cette idée de Ryan Nassoumi que je trouve extrêmement utile, à cette idée de la mémoire sans contenu, hein, cette idée que seul le corps se souvient. Pourquoi, s'agissant du racisme systémique, peut-on dire, à mon sens, que seul le corps se souvient ? Eh bien, parce que ce corps, il a été transformé par l'expérience coloniale. Ce corps, il a été marqué par l'opulence capitaliste qui s'est nourrie, pour reprendre l'image d'Achille Mbé, ce corps qui s'est nourri des cimetières océaniques de la traite esclavagiste. Ce corps dont la santé, hein, dont la vitalité même, est redevable des expériences anatomiques auxquelles les esclaves et les colonisés ont servi de matériaux et de matières premières. D'ailleurs, sur cette question, je recommande l'extraordinaire ouvrage de l'historien des sciences Grégoire Chamaillou, qui s'appelle « Les corps vils, expérimentés sur les êtres humains au XVIIIe et au XIXe siècle », qui raconte cette histoire de la façon dont les esclaves et les colonisés ont servi de matériaux au développement de la médecine moderne. Et puis, pour revenir à cette idée du corps qui se souvient, ce corps, toujours perçu et toujours percevant selon le filtre de la sémiotique raciale, selon le filtre de la pensée racialiste. Alors cette mémoire sans contenu, cette inscription dans le corps d'un pouvoir qui nous précède et qui nous détermine, constitue à mon sens une autre des dimensions affectives du racisme, et celle-là qui se situe bien à une échelle structurelle, à une échelle systémique. Le racisme nous affecte en ce que ses lignes de force nous traversent de part en part, et cela précisément là où nous ne le percevons pas, là où nous ne le ressentons pas, là où nous ne le voyons pas, c'est-à-dire y compris dans notre santé, dans notre vie même, eh bien, héritée de cette histoire coloniale et de cette histoire raciale. Alors, donc, je parlais il y a un instant de ce corps qui est aussi encore marqué par la sémiotique raciale, puisque l'un des modes de fonctionnement ordinaire du racisme, et en tout cas c'est là-dessus que le racisme émerge historiquement, c'est sur une épistémologie du visible, c'est-à-dire sur la construction de filtres interprétatifs du corps qui vont construire celui-ci à partir de signes qui vont être racialisés. Hein, donc la constitution, par exemple, historique de la couleur de peau en signe racialisé. Mais je voudrais ajouter à cela, à cette question qui est déjà très, très connue et très, très débattue, une courte réflexion sur le fait que les modes de racialisation du visible, d'abord, ont aujourd'hui largement élargi leur registre. À la fois parce qu'on a changé d'échelle, hein, c'est-à-dire que le régime racialiste du XIXe siècle, qui se fonde sur une taxinomie systématique de la population, hein, où on va mesurer les crânes avec la phrénologie, où on va mesurer les hanches, où on va mettre en place tout un tas de mesures, tout un ensemble d'appareils de mesures racialistes, ce régime-là de production du corps racialisé, fondé sur la vision, passe désormais à une échelle infrascopique ou microscopique, avec les nouvelles tentatives de classification des populations humaines, qui passent cette fois à la fois par la génétique et par l'imagerie neuronale. Donc il y a toute une littérature aujourd'hui, surtout d'ailleurs en langue anglaise, sur ces nouvelles tentatives de racialisation qui ont cours aujourd'hui. Et je pense en particulier à l'ouvrage de Paul Gilroy, Against Race, dans lequel il revient justement sur ce changement historique d'échelle dans la production du racialisme. Mais cette production, même si elle a changé d'échelle, elle se poursuit sous d'autres formes. Et puis il y a une autre modification particulièrement importante qui est survenue. c'est celle d'une conversion historique qui est en l'occurrence donc la conversion historique de l'ethnicité en race, qui est un point tout à fait important, qui a été notamment souligné dans un texte célèbre d'Étienne Balibar. Étienne Balibar, il appelle ce processus, enfin il appelle plutôt la forme nouvelle du racisme qui émerge au travers de cette conversion, le néo-racisme culturel. C'est-à-dire le fait que le racisme ne se nourrit plus désormais exclusivement du registre biologisant, mais qu'il se nourrit aussi du registre culturel. Donc cette idée de la production de populations comme étant différente, nécessairement différente, mutuellement exclusive, et comme étant chacune absolument déterminée par un socle culturel qui rend, par exemple, et c'est un discours qu'on connaît, l'intégration d'une population par l'autre impossible. Donc vous voyez à quoi je peux faire référence. Et bien cette conversion historique de l'ethnicité en race est sans doute un des modes aujourd'hui dominants par lesquels s'exprime le racisme, et en particulier au travers de formes de racialisation donc, qui touchent à la religion. C'est en particulier ce qu'explique la sociologue Nassira Ghanif-Souyamas, qui montre très bien les façons par lesquelles la sémiotique raciale a désormais produit de nouveaux signes, en particulier le voile et la barbe, qui jouent véritablement le même type de rôle qu'a pu jouer à des périodes historiques données, aussi bien la forme du crâne que la couleur de peau. Ce nouveau registre de racialisation implique de nouvelles dispositions scopiques, c'est-à-dire qu'il produit aussi des sujets, il aménage aussi différemment le regard que l'on porte bien les uns sur les autres, et il aménage de nouveaux partages du visible. Cette question, voilà, on en revient à cette question de la tension entre visibilité et invisibilité, hein, qui est une question vraiment centrale dans l'histoire du développement du racisme. Et je crois, donc, si on suit le fil de la réflexion de Nassira Ghanif-Souyamas sur la racialisation du voile, hein, le fait que le voile soit en lui-même, en tant qu'objet, devenu un signe racial, il y a, je crois, cette ici, dans l'injonction républicaine faite à la femme voilée de se dévoiler, il y a l'injonction de la rendre visible. Et de la rendre visible selon un certain type de conception du visible, selon un certain type de partage du visible. Si elle ne se soumet pas aux normes de visibilité imposées, alors elle doit disparaître. Elle doit être effacée, annulée, oblitérée. Et je crois qu'on peut véritablement penser la figure de la femme voilée comme sujet refusé, comme celle qui ne saurait être vue, qui ne saurait être vue dans les écoles, où on lui refuse la position de sujet apprenant. Je pense évidemment à la loi qu'a subi la commission Stasi en 2004 sur les signes ostensibles religieux à l'école. Elle ne saurait être vue en entreprise, où on lui refuse donc le statut de sujet économique. Je pense à la controverse autour de la crèche Babylou et des déclarations qui s'en sont suivies sur la nécessité d'interdire le voile dans les espaces professionnels. Elle ne saurait être vue en politique, où on lui refuse donc le statut de sujet démocratique. Je pense par exemple à la controverse autour du voile porté par une candidate du NPA. Elle ne saurait être vue dans la rue, où on lui refuse le statut de sujet tout court, comme le montrent les nombreuses agressions commises contre des femmes voilées ces dernières années, et je pense en particulier à la série importante d'agressions qui a lieu à Argenteuil cet été, et dont vous avez sans doute entendu parler. La tension que semble provoquer le voile dans l'espace public confère indéniablement à ce morceau de tissu une forte charge affective. Il déclenche, au sens littéral comme au sens durkheimien, les passions. L'émotion qu'apparaît déclencher le voile chez ceux qui se sentent investis des valeurs dites républicaines structure des lignes de force, des affects, qui précisément participent de la production de l'identité républicaine sur le mode « eux » et « nous ». Trois émotions principales me semblent ici en jeu. Le dégoût, dont je parlais tout à l'heure, hein, ce mouvement de recul qui est aussi du coup un mouvement de clôture du sujet sur lui-même, hein, donc de clôture de l'identité, l'indignation et la honte. Et je pense en particulier à il y a un certain nombre de témoignages de femmes voilées qui racontent les agressions qu'elles ont subies ou qui racontent tout simplement les interactions ordinaires dans l'espace public et qui racontent qu'une chose qui revient très souvent, c'est que les agressions verbales viennent le plus souvent et les plus quotidiennes sont le fait de femmes et le discours de ces femmes est « j'ai honte pour vous ». Hein, donc il y a cette idée aussi au travers de la honte ce même type de mouvement qu'avec le dégoût d'une assignation, d'une clôture du sujet sur lui-même et d'une distinction entre deux types de sujets ou deux types d'objets. Ces émotions, ces trois émotions qui à la fois distinguent le corps de celui qui les éprouve, de l'objet auquel il réagit, produit un type de sujet singulier et un type de sujet qui, à mon sens, est caractérisé par un sentiment d'appartenance. Ce que j'essaie de dire là, c'est que l'envers de ce sujet racialisé, hein, l'envers de cette figure racialisée qu'est la femme voilée, cet envers est le sujet de la nation, hein, en tout cas celui qui se pense sujet de la nation, sujet dont les émotions se trouvent en synchronie avec les passions de l'exploitation et de l'exclusion raciste. Ainsi, l'injonction à l'intégration, hein, qui est évidemment très très liée au discours sur le voile, qui est une injonction évidemment vouée à l'échec, hein, puisque c'est une injonction qui dit « devenez comme nous », est en fait une manière de se sentir soi-même intégré, de se sentir soi-même appartenir à une communauté nationale. En d'autres termes, c'est une manière de faire renaître pour un moment le mythe du sujet unifié et le mythe du corps social cohésif. Une identité unifiée et un corps social cohésif qui, évidemment, se définissent par leur extériorité radicale au sujet postcolonial, à qui injonction est faite de disparaître. Donc je voudrais conclure en soulignant le fait que cette question de la fonction affective du racisme, donc de sa participation à la structuration du social et du sujet, me semble aujourd'hui d'autant plus importante qu'on assiste à deux phénomènes inquiétants. D'une part, la difficulté croissante à parler du racisme dans l'espace public, qui est une difficulté réelle et qui traverse, je crois, un certain nombre d'espaces, y compris, et c'est là où c'est notamment assez inquiétant, y compris l'université. Par exemple, ça fait 15 ans qu'il n'y a... Alors, à l'université, les recrutements se font sur des postes fléchés, c'est-à-dire qu'il y a un fléchage qui dit, par exemple, sociologie urbaine, donc il y a un profil très précis. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de poste sociologie du racisme. Et ce fait-là a des conséquences sur la structuration même de la production du savoir. Et lors du dernier congrès annuel de l'Association française de sociologie, qui était consacré aux dominations, avec un S, les dominations, pas une seule table ronde n'a abordé la question du racisme. Pas une seule. Et lorsque la question était posée depuis la salle, puisque c'est une question qui, en fait, préoccupe beaucoup les doctorants et les jeunes docteurs, les doctorantes et les jeunes docteurs, bien la question était systématiquement esquivée. Et je crois qu'on a, on a là, donc c'est une petite anecdote, mais on retrouve ce type de phénomène plus généralement dans l'espace public. Hein. Il y a quelque chose qui relève de l'ordre de l'indicible. Et par ailleurs, donc c'est mon deuxième point, la racialisation, il y a une racialisation continue du débat public et de l'expression publique, et qui, à mon sens, est précisément soutenue par cette impossibilité à parler du racisme et par cette dépolitisation de la question du racisme. Voilà. Donc pour finir sur une question peut-être plus positive, dans cette conjoncture, je pense qu'une des questions qu'on peut se poser, puis bon, vous voyez que j'aime bien poser des questions parce que je n'ai pas toujours les réponses, c'est celle du sujet de l'antiracisme, donc du type de figure de résistance au pouvoir qui peut émerger des passions racistes. Hein. Je pose la question encore en des termes foucauldiens, hein, c'est le pouvoir qui produit le sujet de sa résistance. Hein. Donc qu'est-ce que les passions racistes peuvent produire en termes de sujet de la résistance, et donc quelles sont les conditions d'émergence d'une politique des affects qui soit cette fois antiraciste. Je vous remercie.
Du racisme à cette manière dont aujourd'hui on demande une injonction d'intégration et donc de disparition des différences. Est-ce que ça c'est pas proprement français? Est-ce que c'est pas lié aussi à ce contexte, à cette forme de, à cette manière dont la France s'est posée comme maîtresse des Lumières avec cette idéologie d'universalisme qui ne posait pas justement la question du sujet ou la manière dont concrètement en fait la société est composée de multiples corps, de multiples expressions et qui dit en fait cet universalisme pose un peu en d'une manière assez discrète l'idée qu'il y a un corps masculin neutre qui est l'étalon de l'homme universel, on va dire. Voilà, ma question c'est, est-ce que c'est pas typiquement français cette problématique quand même du voile aussi, elle se pose quand même différemment, je pense ailleurs. Est-ce que toi ton champ de recherche c'est plutôt lié à ça, à ce contexte français, ou est-ce que toi ça te déborde? Je vois bien que tu nourris des théorie anglo-saxonne, mais est-ce que ça n'explique pas aussi cette résistance en France, dans l'université française, de poser cette question frontalement du racisme?
Cette question, non, c'est pas qu'elle est longue, c'est qu'elle est, elle est riche, elle est dense, et tu touches à des points, je trouve, très, très justes. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une spécificité française qui est liée à la doctrine de l'universalisme républicain et qui peut qui a tendance effectivement à ne pas interroger la composition même du sujet du droit ou la composition même du sujet de la nation. Je trouve que tu as très bien exprimé le fait qu'effectivement comme dans la langue elle-même, le neutre n'est sans doute pas si neutre, et finalement un sujet tout à fait incarné. Je voudrais rebondir plutôt sur la deuxième partie de ta question, qui était sur finalement, est-ce que c'est pas aussi le fait d'employer des modèles théoriques anglo-saxon pour poser la question du racisme en France par une sorte de détour comme ça théorique qui rend difficile de soulever ces enjeux. Je pense pas, parce que en fait de l'autre côté il y a aussi évidemment une histoire de la sociologie du racisme en France mais qui, comme l'histoire du racisme lui-même, fait l'objet d'une oblitération. Par exemple, les textes majeurs de Colette Guillaumin sont évidemment connus dans un certain nombre de cercles, etc., mais ne sont pas dans le corpus canonique de la sociologie enseignée dans les premières années de licence. Voilà, pour prendre un exemple très, très, très concret, très, très matériel. Colette Guillaumin, de façon intéressante, dans l'idéologie raciste, mais aussi dans d'autres textes, elle pose des éléments qui sont d'emblée, qui sont des éléments, je crois, fondamentaux pour articuler une sociologie du racisme, et qui ont été complètement mis de côté. D'une part, elle pose le fait que le sociologue ne peut pas se passer du concept de race, pour une très bonne raison, qui est la suivante. Le racisme opère en vertu de cette notion qui certes n'a pas de fondement en biologie mais qui est reproduit dans les pratiques sociales, et se priver de ce concept c'est se trouver incapable de décrire les critères en vertu desquels s'effectue le partage raciste. Par exemple, de l'espace social, dans l'accès aux biens, dans l'accès aux ressources, etc. Donc ça, c'est un point fondamental qui, à la fois, a été oublié en sociologie. Donc c'est très compliqué de parler comme l'expression qu'employait Guillaumin, c'était rapports sociaux de race. Et de façon, c'est le même terme qui était employé à l'époque. Donc Guillaumin étant aussi une féministe matérialiste. C'est le même terme qui est employé à l'époque pour désigner les partitions spécifiques dans l'espace social qui s'articulaient autour d'un critère là aussi considéré comme arbitraire par les féministes matérialistes, arbitraire et sans fondement biologique, le critère du sexe. Donc il y a une critique des deux côtés de la biologisation, du partage à partir duquel... du partage fondé sur cette biologisation, et à partir de là, une théorie du social. Et cette histoire-là, elle a été en partie oubliée. Voilà. Et un des espaces où on parle, à mon sens, dans l'université, les deux espaces où on parle le plus de racisme dans l'université, c'est pas en sociologie, c'est dans des espaces qui sont des espaces hybrides, interdisciplinaires. C'est dans les espaces où sont discutées les théories postcoloniales, et dans les espaces féministes qui, depuis une quinzaine d'années en France, se posent singulièrement la question de l'intersectionnalité, de l'articulation des rapports sociaux, et en particulier des rapports sociaux de classe, de sexe, de race et de sexualité.
Le point de voir, c'est pas seulement un problème de racisme, ça soulève d'autres, ça appelle d'autres problèmes. C'est pas, il y a le culturel dedans aussi, mais il y a aussi d'autres questions. Ça appelle d'autres questions. Ce point de voir, est-ce que la femme elle doit elle-même porter le voile ou est-ce qu'on l'oblige pour déjà marquer une différence entre le sexe? Il y a ça aussi. Est-ce que c'est pas une manière aussi, ça appelle le politique aussi, ça appelle beaucoup de choses. Et quand on parle on parle de l'esclavage, il y a eu la colonisation chez les Noirs. Donc je pense que, comme on dit, comme ça a été dit, seul le corps se souvient. Quand on parle de l'esclavage au niveau des Noirs, de la traite. Les nègres, pour moi, c'est seul le corps se souvient, ce qui a généré beaucoup de non-dits, des non-dits de la part de l'homme noir, dans le laissant a été colonialisé. J'ai une souffrance, moi aussi je porte cette souffrance. Et moi je me dis, est-ce que, par exemple, le port du voile, le port de la barbe, est-ce que c'est pas une manière de riposter, tandis que nous, on est resté dans les non-dits? Et alors que le voile, le port du voile de la barbe, c'est une manière de répondre à cette forme à cette colonisation. Je pense que ce n'est pas seulement culturel, ce n'est pas seulement une forme de racisme, à mon avis. Ça, ça répond à autre chose. Seul Taubira, que cette Taubira a demandé à ce qu'on demande, elle a demandé elle en a vraiment parlé, elle a osé dire que ça a été vraiment un génocide en quelque sorte. Mais on n'en parle pas trop, on ne dit rien. Et moi, je pense que maintenant, ça, le port du voile là-bas, c'est une manière de dire qu'on a été colonialisé, qu'on regarde ce qui nous ont fait.
Alors, je vais vous répondre. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Je sais pas, moi, la première chose à laquelle je pense en vous écoutant, par rapport à la question du voile et la question du lien avec cette histoire-là, avec l'histoire de la colonisation, c'est qu'il y a, aussi une généalogie coloniale du dévoilement. En Algérie, étaient organisées des cérémonies de dévoilement, hein, où les administrateurs coloniaux demandaient aux femmes de se dévoiler, et ce dévoilement était mis en scène et il était célébré comme une forme d'engagement dans la civilisation. Donc il y a aussi voilà, cette généalogie coloniale-là qui est tout à fait forte. Ensuite, du côté des éventuelles stratégies que pourrait recouvrir le voile ou le port de la barbe, notamment de ce que vous décrivez, c'est quasiment des figures de résistance, hein, c'est-à-dire c'est le fait de continuer à faire circuler des traces de l'histoire coloniale dans l'espace public. J'ai pas d'avis là-dessus, ça n'a pas été mon angle, donc voilà, ça peut être une lecture possible, c'est pas nécessairement celle, ça n'a pas été mon point d'entrée en tout cas. Et ensuite, sur la question que vous avez posée au départ, qui est une question tout à fait importante, puisque c'est un peu la façon dont la question du voile est entrée dans la sphère publique, c'est cette idée que finalement, l'injonction au dévoilement, en fait, avait une visée féministe, hein, qu'elle aurait visé à protéger des femmes contre... leur mari, leur frère, que sais-je, qui les obligerait à porter le voile. Et ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que c'est donc une logique d'émancipation traditionnelle, c'est-à-dire on ne s'émancipe pas soi-même, mais on émancipe, hein, je vous émancipe, comme on émancipe un esclave, hein, donc il y a une forme d'injonction à être émancipé, et à être émancipé, eh bien justement, selon un certain standard d'émancipation, qui est un standard qu'on peut qualifier sans doute d'eurocentriste, et qu'on peut qualifier comme une forme d'émancipation, eh bien, qui n'interroge pas ce que sont les signes de l'histoire de l'oppression des femmes, par exemple, dans la tradition française, hein, qui n'interroge pas... l'histoire des talons hauts. Hein? Donc cette idée, par exemple, c'est pour ça que je trouve l'idée de Nasser Aghinifiamas tout à fait intéressante, qui est celle de dire que le voile est devenu une sorte d'objet indépendant de la personne qui la porte, il est en lui-même un signe. Et signe auquel on prête une lecture, alors auquel on prête dans l'espace public et dans le débat public, auquel on prête une lecture irrévocable, qu'on ne peut pas révoquer, qui est le voile est le signe de l'oppression de la femme. Bon, ça, on l'a entendu beaucoup. Mais justement, cette fixation sur une lecture unique, eh bien, permet de l'autre côté de construire les signes de l'oppression des femmes en France comme des signes polyphonique et comme des signes qui peuvent avoir de multiples interprétations, qui ne sont pas cristallisés dans le marbre. Vous voyez, on peut porter des talons hauts sans répéter l'histoire, par exemple, de l'hypersexualisation des femmes. Par contre, on ne peut pas porter de voile sans répéter l'histoire d'une certaine tradition de domination. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est aussi une manière de se constituer lorsqu'on est dans cette forme d'imposition d'une lecture unique, c'est une manière de se constituer soi-même, ou en tout cas de construire le sujet français, le sujet de la nation, comme étant éclairé, comme étant non sexiste. Et donc ça, c'est voilà, un élément qui me semble tout à fait intéressant. Et donc, il y a un refus de, voilà, de l'émancipation. Hein. Ces sujets qui ne pourront jamais être émancipés, puisque leurs signes jamais ne prendront d'autre sens, eh bien, sont ainsi renvoyés dans une sorte d'en dehors de la modernité, si ce n'est pas pour dire de la civilisation. Et puis, par ailleurs, il y a, un autre élément tout à fait important, c'est... et qui concerne aussi ce que j'appelle, moi, les régimes de visibilité du racisme, hein, donc qui peut être ou non rendu visible selon quels contextes sociaux et avec quelle densité de présence, c'est la présence muette, des femmes voilées sur nos écrans. C'est-à-dire qu'il y a une présence continue de ce signe qu'est le voile, sans que jamais ces femmes ne parlent. Je parle là, évidemment, de la mise en fiction télévisuelle de l'information. Et donc là aussi, il y a quelque chose de tout à fait singulier. Hein. Donc c'est ces sujets qu'on émancipe de l'extérieur et qui ne sont pas des sujets parlants. Et puis, enfin, la dernière chose par rapport à cela, je crois que je suis en train d'oublier la dernière chose. Bon, je sais plus. Je dirais que ça me revient.
J'avais juste une remarque aussi par rapport à cette question du racisme auquel tu associes donc des affects qui sont de l'ordre donc du dégoût, de la honte et qui se manifestent dans des langages du corps donc qui sont muets, qui sont plutôt de l'ordre qui immobilisent les masses, quoi, qui fixe en fait des positions qui font que ça ne peut pas évoluer. Et quand tu parlais d'un racisme qui est systémique, ça me faisait aussi penser à ça. Je me disais, en fait, ça immobilise. Enfin, cette approche du racisme qui est très intéressante, je pense, c'est assez nouvelle. Et comment est-ce qu'on arrive à penser qu'une ligne peut bouger à partir de ça, en fait ? Comment est-ce qu'on peut, à partir du moment où c'est systémique, quelles sont les promesses d'évolution ? Et puis je pensais juste qu'à, mais ça n'a peut-être rien à voir avec ton champ d'étude, mais il y a un autre aspect qui a pu mobiliser justement au contraire du dégoût, par exemple, un affect, je pense à l'indignation, donc, qui a été aussi un affect qui s'est manifesté dans les médias et qui a quand même qui a une réalité, une vraie réalité, c'est comment cet affect de l'indignation a pu mobiliser des foules et être pour le coup vraiment. À participer d'une activité, d'une réflexion et être plutôt, on va dire, positif et pas complètement cristallisateur comme peut-être des expressions du racisme dont tu parles.
Bah, c'est une question qui est vraiment une question importante. C'est, enfin, la première question que tu poses sur le racisme systémique, est-ce que finalement cette conception-là, tout utile qu'elle soit, est-ce qu'elle nous fiche pas aussi ? Est-ce qu'elle nous empêche pas de penser le changement ? Et c'est une question qui se pose très fortement là aujourd'hui. C'est le cas aussi dans le féminisme, hein, puisque c'est deux espaces de pensée hein, qui vraiment sont très proches, c'est les mêmes personnes. Je pense à Nassira Genestouyama, Elsa Dorlin, enfin voilà, il y a tout un tas d'universitaires aujourd'hui qui pensent ces questions dans ces deux champs. Et c'est une question qui revient beaucoup aujourd'hui, qui est celle du pessimisme de la théorie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte de cycle historique qui fait que là où le post-structuralisme avait complètement avait ouvert la voie aussi à une pensée créative, à une pensée du sujet créatif, à une pensée de la dispersion, du rhizome, etc. Donc autant de modalités du pouvoir dans lesquelles il y a du jeu, et il y a aujourd'hui un retour aux structures sociales. Et c'est intéressant parce que moi, à ma petite échelle, j'ai fait aussi ce même parcours. C'est-à-dire que moi, je suis venu aussi à l'université, plutôt au travers de la question de la théorie queer et plutôt au travers des modélisations théoriques de l'identité mouvante, de l'identité multiple, etc. Et puis petit à petit, c'est ma confrontation en tant que sociologue au terrain, à la construction des faits, bien qui me conduit à me rendre compte que effectivement les structures sont extrêmement prégnantes. Donc c'est compliqué de... Non, mais ça, c'est une crise des institutions, mais qui n'est pas une crise des structures. C'est-à-dire que là, par exemple, donc j'ai amené quelques chiffres. Donc, des chiffres dont il faut que je dise tout d'abord que c'est des chiffres qui sont très imparfaits. C'est des chiffres de l'INSEE, mais ils sont imparfaits. Donc, c'est des chiffres qui mesurent des différentiels entre des descendants d'immigrés et des personnes descendant de deux parents français. Mais ces chiffres sont mal conçus parce qu'ils ne mesurent pas le racisme. Ils mesurent la trajectoire migratoire des parents. Mais du fait de l'interdiction des statistiques de la diversité en France, on ne peut pas avoir de diagnostic précis qui porterait sur la manifestation du racisme dans... la répartition des ressources, la répartition des biens, la distribution dans l'emploi, etc. Mais ces chiffres nous donnent quand même une petite indication. Donc, par exemple, le taux de chômage des actifs qui sont descendants d'immigrés nés hors Union européenne, il est aujourd'hui de 24%. Pour les actifs toujours descendants d'immigrés nés hors Union européenne, qui sont âgés de 15 à 24 ans, le taux est de 40%. Contre, donc, taux du chômage des actifs des personnes qui ne sont ni immigrés ni descendants d'immigrés, 8%, et chez les jeunes, 21%. Donc, il y a un différentiel qui est énorme. Le différentiel en termes de salaire, par exemple, pour quelqu'un, deux parents nés français, salaire mensuel moyen en 2010, 1648 euros. Personne dont l'un des deux parents ou les deux parents sont originaires du Maghreb, salaire mensuel moyen, 1399 euros. Et ces écarts se creusent, en fait. Donc c'est là où cette idée du dépassement des structures, en fait, il est compliqué. Et voire même dans le champ de la... Donc c'est encore un autre studies machin, dans le champ de la critical race, non c'est pas studies d'ailleurs, de la critical race theory, donc la théorie critique de la race, qui est le champ qu'a émergé en fait du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Hein, ça a été la traduction universitaire de ce mouvement. Dans ce champ-là, ce qui se discute beaucoup, c'est notamment le fait que finalement le sujet postmoderne, hein, ce sujet hypermobile, etc., c'est aussi un sujet neutre qui en fait n'est pas si neutre que ça, qui est peut-être un peu un sujet blanc, c'est-à-dire ou un sujet masculin, c'est-à-dire un type de sujet qui échappe en partie aux structures de par sa position. Mais voilà, parce qu'on pourrait dire la même chose effectivement de ce qui concerne la répartition des biens, des ressources, de l'accès à la représentation pour les femmes, hein, qui n'a pas vraiment bougé non plus en 30 ans. Hein. La répartition des tâches ménagères n'a pas bougé d'un iota depuis les années 70.
Bah, c'était un peu au-dessus dans les années 70. Hein. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, je voulais juste poser une question, en fait, parce que tu évoquais le critique de la raison d'aigle. Tu as dit que le racialisme trouvait aujourd'hui de nouvelles formes. Est-ce que tu peux préciser un peu ça ?
Oui. Alors en fait, donc là je restitue l'idée d'Achille Mbembe. Hein, donc ouais. Ce serait imparfait, mais parce que c'est quand même très, très, très puissant comme pensée. En fait, en gros, ce que dit Achille Mbembe, c'est que donc la logique du racialisme, c'est la logique de l'exploitation. Donc c'est voilà, la raison pour laquelle il y a un lien dissociable entre le capitalisme et le racisme, c'est même que le capitalisme a eu besoin du racisme comme modalité de justification idéologique lors de sa formation. Et ce que nous dit Achille Mbembe, c'est que aujourd'hui il y a eu une transformation de la logique d'exploitation, puisque il y a un certain nombre de personnes qui sont constituées non pas comme des corps exploitables, mais comme des corps improductifs, comme des corps jetables, comme des corps dont on ne veut pas, comme des corps dont, qui ne servent à rien. Hein, ce qu'on voit, par exemple, 40% des jeunes dont les parents sont immigrés sont au chômage. On ne veut pas d'eux. Et donc il y a ce phénomène-là, qui est un phénomène qui est particulièrement fort dans un certain nombre de pays, et notamment dans des pays où là on a des chiffres plus précis qui concernent le racisme plus que la question migratoire. Et il y a aussi eh bien, ce phénomène d'inversion historique du trajet de la traite, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là où, durant la traite esclavagiste, eh bien, on allait chercher des individus pour les réduire en esclavage, qu'on les mettait dans des bateaux où ils risquaient leur vie dans cette traversée, hein, on a aujourd'hui un phénomène inverse de personnes qui volontairement montent dans des bateaux avec pour aspiration celle d'être exploitées dans le cadre du salariat. Mais ces personnes-là qui ont pour aspiration d'être, comme chacun d'entre nous, exploitées dans le cadre du salariat, chacun d'entre nous a des positions différentes, eh bien, on ne veut pas d'eux. Et il y a donc une inversion voilà, historique, c'est-à-dire que d'une forme de racialisation qui constitue des corps humains en chair productive, on a aujourd'hui une logique de racialisation qui constitue des corps humains en chair improductive. Voilà. Et voilà, le texte de Mbembe est magnifique, et avec voilà, cette idée de l'océan comme une espèce de charnier perpétuel, l'océan ou mer Méditerranée, hein, qui nous raconte cette histoire-là. Alors en fait, pour répondre d'abord à la logique qui est derrière l'impossibilité à produire ces statistiques, c'est lié à la loi 1978 qui s'appelle la loi informatique et liberté, et dont la CNIL a la responsabilité de l'application. Et c'est une loi qui interdit donc de mettre ou de conserver en mémoire informatique des données sensibles relatives à la race et l'origine, c'est les termes qui sont employés, à l'orientation sexuelle, aux opinions syndicales et à l'état de santé. Et donc pour chacune de ces données, il y a des modalités possibles qui font qu'une statistique publique peut être mise en œuvre, mais il faut en passer par le Conseil d'État. Donc voilà, donc il y a une difficulté spécifique et du coup ça s'applique pas de la même manière à tous ces cas. Mais par exemple, donc là je donne un exemple parallèle pour voir qu'il y a différentes formes. Enfin, la législation informe aussi la production de connaissances. Dans le cas du débat sur le mariage pour tous, on ne savait pas de quoi on parlait. On ne savait pas combien il y avait de gays, on ne savait pas combien il y avait de lesbiennes, on ne savait pas combien il y avait de configurations homoparentales. Pourquoi ? Parce que ces chiffres, ils sont proscrits. Donc voilà, donc on a eu des chiffres dans tous les sens. Et puis on a demandé à l'INSEE, en catastrophe, de faire des notes, etc. Et ils ont donné quand même 3 scénarios de chiffres pour les enfants vivant dans des configurations homoparentales. 3 scénarios, qu'elle est du simple au triple. Bah, donc il y a des vrais, ça produit des vraies difficultés pour le diagnostic, et évidemment, pour le travail sociologique, ça complique les choses. Néanmoins, cette loi de 73, elle est liée évidemment là à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et, exactement. Mais il y a un certain nombre de démographes, je pense à Patrick Simon par exemple, hein, qui est particulièrement important dans la discipline, qui plaide pour des statistiques de la diversité. Alors il a proposé, parce que ça fait 15 ans, donc c'est un des grands spécialistes vraiment de la question du racisme en démographie, ça fait 15 ans qu'il plaide pour plein de modalités différentes de mise en œuvre, hein, c'est-à-dire pour éviter tout risque d'une racialisation du discours public par la statistique, mais en même temps pour qu'on puisse disposer d'un diagnostic. Voilà. Bon, donc jusque-là, ça ne s'est pas fait. Puis c'est une question qui est encore présente politiquement, parce qu'elle a par exemple opposé, c'est une des rares questions qu'ont posé Valls et Hollande pendant la primaire socialiste. Il y avait un désaccord là-dessus, Valls étant favorable aux statistiques de la diversité et Hollande y étant opposé. Mais pour continuer sur les effets de cette absence, et qu'est-ce que ça produit dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, ça nous donne une idée très claire de ce qu'être noir veut dire en termes économiques. Hein? Donc vous voyez, ça permet pour le coup littéralement d'illustrer cette question du racisme systémique. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est dans l'enquête la plus récente sur la population américaine. Le taux de alors les personnes dans la statistique américaine s'auto-identifient, hein, donc je crois qu'aujourd'hui on a une dizaine de catégories qui sont des catégories ethno-raciales, et les personnes cochent, et elles ont le droit de cocher 3 ou 4 catégories si elles veulent, enfin voilà. Mais parmi les personnes s'identifiant comme noires, je crois que c'est autour de 34% vivre en dessous du seuil de pauvreté, contre 14% de personnes s'identifiant comme blanches. Donc, et après, il y a aussi voilà, les hispaniques, les asiatiques américains, etc., etc. Mais là, c'est la polarité la plus forte, elle est là, quoi. On est du simple au double. Et cette question-là, il me semble qu'elle est importante. Par exemple, quand on se demande en France qui est la classe populaire, ce qui fait partie des questions que la gauche se pose aujourd'hui, hein, se demande voilà où est partie la classe populaire, pourquoi il y a des difficultés à faire voter la classe populaire à gauche, mais ça fait partie des questions auxquelles on a du mal à répondre en fait. Et par ailleurs, y compris dans la construction de l'image du pays, aux États-Unis. Ça a été particulièrement important le dernier census, puisqu'il est apparu que les blancs n'étaient plus majoritaires dans le pays. Les personnes s'identifiant comme blanches n'étaient plus majoritaires dans le pays. Et ce qui reconfigure complètement l'imaginaire national. Voilà. Bon, en France, on a à peu près aucune idée. Mais le fait que ces catégories-là n'existent pas dans la statistique publique, même sous la forme déclarative, avec l'idée que cela risquerait de mettre en circulation des catégories qu'on souhaiterait voir oubliées, ça ne signifie pas pour autant que ces catégories, elles ont disparu. Voilà. J'ai fait une enquête sociologique sur les modalités d'identification raciale, et il apparaissait que beaucoup de personnes s'identifiaient selon des catégories raciales. Très facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas la première chose qui vient, mais dans une discussion ou en confrontation avec une situation ou en confrontation avec la différence, ces modes d'identification persistent. Et puis le débat public illustre aussi bien, on a beaucoup parlé du racisme anti-blanc, illustre aussi bien que ces catégories continuent à persister, y compris lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une action politique. Avec le racisme anti-blanc ? Oui, mais le problème du racisme anti-blanc, c'est que le racisme anti-blanc, il désigne, à minima, je veux dire, si on fait crédit à ceux qui portent ce thème, à minima, il désigne des micro-inéquités qui se situent à un niveau interactionnel. Voilà, c'est une personne malveillante dit une chose mal intentionnée à une autre personne. Okay. On n'a jamais vu, pour le dire hyper simplement, on n'a jamais vu en France de racisme systémique anti-blanc. On n'a jamais vu de difficultés liées à l'emploi, liées au logement, liées à l'accès à l'éducation, liées aux ressources, qui s'arriment à un critère racial pour des blancs.
Et ça cristallise encore plus la position du bleu et du noir.
Bah évidemment. Évidemment, ça cristallise les positions, mais aussi, c'est là où c'est une opération idéologique qui est très qui est très fine, ça symétrise le racisme. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le racisme n'est pas une structure qui a un héritage historique dont on doit essayer de se défaire et qu'on doit essayer de comprendre, mais que le racisme, il se situe au niveau des interactions, donc il prend pour point de départ l'égalité entre tous les individus, et parmi, au sein de cette égalité, eh bien, chacun peut exprimer un racisme contradictoire. Bah, c'est une pensée qui est purement antisociologique. Il fait un peu chaud aussi.
Ouais. Merci beaucoup, Maxime.
Bah, merci à vous.
C'est très intéressant le contexte de la galerie et de, voilà, qui est dans un contexte aussi de la Seine-Saint-Denis qui est bien marqué. C'est une question de la diversité. Merci aussi.
Merci. Bah, merci.